Hello à tous et bienvenue sur Isinvest, le podcast qui propose un contenu pédagogique sur l'investissement immobilier. Je suis Gary Franco, investisseur et fondateur de Isinvest.fr qui accompagne celles et ceux qui souhaitent effectuer un investissement immobilier et constituer un patrimoine mais manquent de temps, d'expertise ou de contact pour y parvenir seul. Sur ce podcast, je reçois des experts de l'investissement qui vous donneront des clés pour mieux comprendre le monde passionnant mais ô combien complexe de l'investisseur immobilier. Pour celles et ceux qui souhaitent un accompagnement clé en main ou simplement échanger autour de l'investissement et de l'immobilier, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou nous retrouver sur isinvest.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Colonize est un acteur majeur du co-living en France et bientôt en Europe. Le co-living, c'est quoi? Ça s'adresse à qui? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça apporte comme avantage à un locataire par rapport à une location classique d'un studio? Quelle différence il y a entre co-living et colocation? Investir sur du co-living, c'est intéressant, c'est rentable? On évoque tous ces sujets, et bien d'autres encore, avec Astrid Paul qui est justement en charge des investissements chez Colonize. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 des podcasts de Isinvest. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Astrid. Coucou Astrid, est-ce que tu peux te présenter à nous?
Bien sûr, bonjour Gary. Donc je m'appelle Astrid, je travaille chez Colonize en tant qu'investor manager. J'ai rejoint Colonize, ça fait maintenant 6 mois. Et brièvement, du coup, mon histoire, j'ai fait des études de sciences politiques et de management en France et en Angleterre. J'ai près de 10 ans d'expérience en conseil et en gestion de projets stratégiques dans des entreprises à dimension internationale, des startups, mais aussi dans l'immobilier. Parce qu'en fait, à l'occasion de ma grossesse, j'ai des petites jumelles qui ont maintenant 3 ans et demi, je me suis reconvertie dans l'immobilier et du coup, je me suis lancée en tant que freelance dans l'immobilier, dans la chasse et la vente d'appartements à Paris et en Île-de-France. Pourquoi okay. L'immobilier, du coup, c'est que j'ai toujours aimé l'immobilier à titre personnel, mais aussi parce que mon père est notaire. Et notaire en province et du coup une partie de leur travail ça reste de gérer des biens immobiliers et du coup j'ai beaucoup appris et j'ai toujours baigné un peu dedans et ça m'a toujours attirée en fait.
D'accord.
Donc okay. Du coup je me suis formée, c'est vrai que la grossesse c'est souvent un moment où on a le temps ou en tout cas l'opportunité de se poser les bonnes questions. Et là je me suis dit en fait voilà j'ai 30 ans, c'est le moment de déterminer un milieu dans lequel je me sentirais bien, un cœur de métier qui m'attire, tout en mettant à profit en fait mes expertises et puis tout ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle et aussi scolaire avant.
D'accord, ok, très bien. Donc effectivement, la famille est un petit peu dans l'immobilier, enfin le notariat.
Ouais,
c'est dans quel coin
de... En Bretagne. En
D'accord.
Bretagne, ouais.
Okay.
Et puis aussi, dans mon entourage, il y a pas mal de gens investisseurs, dont mon frère. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal appris aussi à son contact.
Okay.
Et puis, j'ai des personnes de mon entourage, ça commence souvent comme ça, qui cherchaient à trouver un appartement, qui ne savaient pas exactement où regarder, qui n'avaient pas non plus forcément le temps. Et du coup, moi, je me suis dit, en fait, c'est ce que j'apprécie. Je trouve ça hyper intéressant et ça m'attire. Je l'ai fait, ça a marché. De fil en aiguille, ils en ont parlé à d'autres personnes, etc. Et du coup, ça a commencé comme ça. Je me suis formée en ligne. J'ai écouté des podcasts. J'ai regardé des vidéos YouTube. D'accord. Me suis formée aussi auprès de mon père. Et puis sur le terrain, hein, franchement, on apprend aussi énormément sur le terrain. Donc voilà, donc maintenant, ça fait plus de 4 ans que je travaille dans l'immobilier.
Très bien. D'accord. Et donc, tu as rejoint Colonize récemment ?
Ouais. C'était il y a 6 mois, donc après plusieurs années en freelance. C'est vrai que ça me manquait un peu la dimension internationale, la dimension aussi plus macro-business, qui dépasse le côté chasse immobilier à titre individuel.
Ouais.
Donc j'ai pas mal cherché, je voulais pas non plus me louper parce que c'est vrai que maintenant, je me suis dit que j'étais à un moment assez important de ma carrière. Et du coup, j'ai pas mal cherché un acteur en fait qui à la fois est en pleine croissance, qui a une dimension internationale, ce qui est le cas de Colonize, et puis avec des équipes en fait hyper complètes, jeunes, dynamiques. Et donc, c'est vrai que bah, ça a été assez comme une évidence. Donc, c'est la vérité. Ça peut paraître un petit peu bullshit, mais c'est vrai.
Ah non, non, non.
Et du coup, voilà. Donc, j'ai candidaté. Ça a été un long process de recrutement, mais ce que j'ai trouvé assez rassurant. Et puis voilà, du coup, maintenant, ça fait maintenant 6 mois que j'y travaille en tant qu'investor manager.
Très bien. Eh bien, écoute, félicitations pour ce joli parcours. Est-ce que tu peux nous dire justement quelques mots de Colonize?
Ouais.
Ce qu'ils font, quels sont, alors après on va rentrer un petit peu dans le détail des opérations, des partenaires que vous avez, etc. Mais au départ, moi effectivement, de mon point de vue, Colonize, évidemment, c'est un nom célèbre dans l'immobilier. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui est Colonize?
Bien sûr. Alors, Colonize, c'est une scale-up qui a été créée en 2017 par 3 amis de l'ESSEC, donc François Roth, Alexandre Martin et Amaury Courbon. Et en fait, ils se sont imposés comme le pionnier et le leader du co-living en France et en Europe. Et en fait, la mission initiale, en tout cas, de Colonize, c'est d'améliorer l'expérience d'habitation dans les grandes villes, que ce soit en France et en Europe. Ils sont partis du constat que finalement l'offre locative était déjà c'était assez compliqué de trouver une location, mais en plus une fois qu'on y était, l'offre est pas forcément de bonne qualité, l'ameublement non plus, etc. Et pourtant ça reste cher. Et donc du coup voilà, ils sont partis de ce constat. Ils sont allés aux États-Unis faire un tour et puis ils ont du coup effectivement noter ce concept de co-living, donc d'habitation partagée. En fait, tout le concept, l'idée, c'est d'avoir des espaces mutualisés, donc de proposer aux locataires un espace privatif, quelle que soit la gamme de produits, parce que je vais vous expliquer, il y a 3 produits sur lesquels on se positionne. Mais l'idée, en fait, c'est de proposer donc, une expérience maximale aux locataires, de ne pas penser déjà que au propriétaire, même si évidemment, on sert des investisseurs, mais aussi de se dire, en fait, le locataire, il a aussi le droit de vivre une expérience maximale. Et donc, il a son unité privative, qui peut être plus ou moins grande en fonction de la typologie de l'actif. Il a une extension de son privatif avec des semi-communs. Donc, c'est, donc déjà, tout est équipé, quelle que soit d'ailleurs aussi la gamme de produits. Le locataire n'a qu'à apporter ses valises et ses draps. Et donc, il y a des semi-communs, donc cuisine équipée, salon, assez classique, ouais. et potentiellement salle de bain. Et aussi des super communs. Et ça, en fait, l'idée, c'est de proposer un boulodrome. Alors, ça dépend évidemment de la localisation et de l'actif aussi. Mais un boulodrome, un grand jardin, un rooftop, etc. Donc ça, c'est l'idée qui est le cœur de métier de Colonize, qui va d'ailleurs dans le sens de l'écologie, de l'économie. Et puis aussi, on l'a pu le voir avec le Covid, ce besoin de lien social et de lien, puisqu'on se rend compte, il y a une étude qui est sortie là, de la Fondation de France, qui montre que les jeunes, il y a 21% des jeunes qui se sentent seuls, ouais. Et qui souffrent de la solitude. Donc, c'est des vrais besoins sociétaux. Mais il faut comprendre qu'en fait, Colonize, c'est un opérateur. Ça veut dire qu'on ne détient pas la propriété des biens qu'on gère. Donc, en fait, on est asset light avec le sous-jacent de l'immobilier. On cherche des investisseurs, du coup, qu'ils soient institutionnels ou privés.
D'accord.
Pour eux, en fait, détiennent la propriété du bien. Et nous, en fait, notre cœur de métier, c'est de sourcer, d'expertiser, de rénover, d'ameubler et ensuite de gérer la location des biens.
Okay.
Donc, ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et pour finir, du coup, il y a 3 typologies de enfin, notre gamme de produits, elle est autour des large projects. Donc, comme son nom l'indique, c'est des grands immeubles qui peuvent aller jusqu'à 100 unités, qui nécessitent du temps entre la signature et l'arrivée des premiers locataires. Il y a des co-living. Là, c'est les transformations de maisons en co-living. On est plutôt entre 6 et 15 unités. Et okay. Enfin, les super colocs, dont je vais vous parler plus particulièrement aujourd'hui, qui est un produit d'investissement locatif. Et en fait, ce sont des appartements autour de 100 mètres carrés qui, en fait, sont transformés en colocation dans plusieurs villes actuellement en France et puis aussi en Allemagne. Et voilà. Et donc, du coup, je vous en parlerai un petit peu plus après.
Ouais, volontiers.
Et puis, un point important, c'est qu'en fait, on a un bureau à Paris et un bureau aussi à Berlin. Historiquement.
D'accord.
Donc, on est présent en France, en Allemagne et bientôt en Belgique et au Luxembourg. Voilà.
Ok, très bien. Donc, plutôt nord de l'Europe. Ok. Et vous avez à peu près combien de personnes qui bossent pour vous, combien de salariés, quelle est la taille de Colonize?
Alors la taille de Colonize, effectivement, c'est une bonne question parce que à la différence de d'autres scale-up, c'est vrai que Colonize ne fait que croître. Ouais. Là, on est à plus de 100 employés actuellement. Okay. Donc en France et en Allemagne à ce stade, et on se développe, comme je le disais, en Belgique et au Luxembourg, et puis éventuellement dans d'autres pays. Prochainement. Donc voilà, il y a des personnes en fait de tous les... D'ailleurs, on a toutes les expertises en interne, ça c'est important de le comprendre. On a à la fois des architectes, des designers, mais aussi des personnes qui viennent du monde de l'hôtellerie, du retail, du conseil.
D'accord, ok. Ouais, donc vous intervenez vraiment sur toute la chaîne.
Ouais.
Très bien. Alors effectivement, c'est intéressant. Moi, effectivement, historiquement, je connaissais Colonize de nom, voilà, parce que c'est notoire, on va dire. Colonize et le co-living principalement, moi c'est comme ça que je vous ai connu.
Ouais.
Je connaissais moins le côté super coloc et effectivement ce serait intéressant qu'on en discute. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, un petit peu qu'est-ce que c'est une super coloc, et puis après on rentrera un petit peu dans le schéma à la fois du produit pour le locataire, à quoi il a accès, à quoi il peut prétendre comme... Voilà, est-ce que c'est un appart, est-ce que c'est un appart un peu plus avec, comme tu le disais, pour du co-living avec un extérieur par exemple. Et après on s'attardera un petit peu du point de vue investisseur, quel est l'intérêt et les avantages d'investir sur justement ce type de produit.
Ok. Alors la super coloc, l'idée en fait c'est de trouver des biens immobiliers dans des localisations stratégiques, que ce soit en France et en Europe, et qu'on transforme en fait en colocation meublée pour maximiser la rentabilité de l'investissement locatif.
D'accord.
Donc on s'adresse à des cibles, c'est des jeunes urbains, donc des étudiants et des jeunes actifs. Et on cible des appartements, enfin en moyenne des appartements entre 80 et 150 mètres carrés qui accueillent entre 4 et 6 personnes.
D'accord.
Ça peut être aussi des maisons, mais honnêtement, c'est plus à la marge, les maisons. Donc là, sur le produit de Supercoloc, on est plus sur des appartements en général.
D'accord.
Et vraiment, l'idée, en fait, c'est d'adapter ces typologies d'actifs aux besoins et aux usages du locataire. Donc, on a la chance d'avoir pas mal de retours maintenant d'expérience. On a plus de 1000 unités en exploitation. Pour effectivement, avec nos designers et les architectes, pour optimiser au mieux l'expérience et puis aussi les espaces. Évidemment, on pense, comme je le disais, au locataire, mais aussi à l'investisseur pour maximiser sa rentabilité. Aujourd'hui, on a ouvert des super colocs en Île-de-France, à Lille, à Bordeaux, à Toulouse et à Marseille. Mais on va également ouvrir bientôt des super colocs à Montpellier, à Aix-en-Provence, à Nantes. Voilà, il y a plusieurs villes cibles. On est aujourd'hui présent, en tout cas, ce qu'on peut proposer à un investisseur qui viendrait demain nous voir. Là, actuellement, on opère en Île-de-France, évidemment, à Lille, à Nantes, à Marseille, à Bordeaux, à Aix-en-Provence, Montpellier et également à Lyon.
D'accord.
Okay, en France. Oui, donc ça, c'est pour la France. Après, on peut aussi investir... en Allemagne, à Berlin, mais aussi dans les villes cibles qu'on a d'ailleurs, les équipes locales ont targeté, et puis aussi en Belgique et au Luxembourg.
D'accord.
Ce qui peut intéresser certains investisseurs. Donc, je préfère le dire parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours le cas de proposer ces localisations.
Oui, effectivement. Ok, d'accord. Donc, un Parisien, enfin un Français peut investir à l'étranger.
Ouais.
Il n'y a pas de frottement fiscal particulier.
Non, alors après, il faut trouver le financement.
D'accord. C'est plus simple de commencer par la France, en tout cas.
Oui, alors après, ça peut se faire, honnêtement. Il faut effectivement trouver le financement, mais c'est vrai que nous, on a des investisseurs qui sont intéressés pour des investisseurs français pour investir dans ces pays-là.
D'accord.
Ou alors, d'ailleurs, des Français qui habitent
localement. Ouais, et cela se fait les... plus facilement financer.
C'est ça, alors franchement.
Une domiciliation dans le pays en question. Ouais.
J'en parlais encore hier avec un courtier de chez Artemis. C'est vrai que, en vrai, chaque type, comme tu le sais, quand on fait un emprunt, et d'ailleurs c'est ton métier, donc tu le sais, ça dépend vraiment de la situation personnelle de chaque personne. Il n'y a pas de loi. Ouais. Mais c'est vrai que ça peut se faire. Et puis c'est vrai qu'on a vu aussi, on a une typologie d'investisseurs avec lesquels on travaille. C'est des Français basés à l'étranger. Et ça les rassure d'avoir un investissement en France, de faire un investissement locatif. Et puis ça leur permet aussi parfois d'avoir un espèce un ancrage aussi dans leur pays d'origine. Et c'est vrai qu'on a pas mal d'investisseurs qui sont du coup qui habitent à l'étranger.
D'accord. Mmh. Ok, très bien. Et alors, sur le schéma, donc que ce soit du co-living ou de la supercoloc, mmh. les investisseurs donc détiennent la propriété, puisque vous êtes opérateur,
ouais.
donc vous sourcez, vous rénovez, vous meublez, puis vous gérez l'actif.
Ouais, exactement.
Et donc, les investisseurs, eux, ont la propriété, mmh. donc ils se la partagent, c'est ça ? Ou est-ce que chacun détient un actif, ou est-ce que c'est un petit peu comme du crowdfunding, mmh. une co-détention qui se partage, voilà.
Bah, là, d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de crowdfunding parce qu'on a mis en place un partenariat en septembre dernier avec CF Invest qui s'appelle Super Club. Et l'idée, parce qu'au cœur aussi de la mission de Colonies, c'est vraiment y a l'innovation et l'idée de repenser aussi le monde du résidentiel et de démocratiser aussi l'accès au logement. Et du coup, on a monté un partenariat qui s'appelle Super Club. Et l'idée, en fait, c'est de proposer l'investissement locatif depuis une plateforme de crowdfunding,
d'accord.
des 1000 euros.
Très bien.
Donc ça, voilà, c'est marrant que tu en parles parce qu'effectivement, du coup, on a
c'est
ce produit-là.
C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Voilà, donc on a ce produit-là. Si tu veux, je t'en parlerai un petit peu okay. plus. Et puis autrement, dans la majeure partie des projets sur lesquels on travaille, que ce soit d'ailleurs des large projects, des co-living ou des super colocs, ouais. Les investisseurs investissent seuls. Après, typiquement, nous, à la limite, ils font un peu ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que, par exemple, ouais. sur la super coloc, si tu veux faire une SCI et investir avec un proche, tu peux le
oui,
faire.
Oui,
nous,
ça.
À la limite, ça nous...
Oui, vous n'intervenez pas sur
ouais, on s'attendait, on
structuration,
exactement.
Financement, etc. Si
ouais.
on trouve,
Mais après, on travaille avec une diversité d'acteurs comme un spectre très large, puisque effectivement, un large project, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Enfin, peut-être pas centaines, mais dizaines de millions d'euros.
Oui.
Le co-living, on est à 1 million et plus. Et puis, la super coloc, le ticket d'entrée, on est autour de 300 000 euros, mais tout compris. Donc, frais d'agence, frais de notaire, ameublement, travaux et fils
ouais,
colonise.
Le projet est global.
Ouais, global, vraiment.
Ouais,
et nous,
300 000 euros, oui,
ouais.
c'est un ticket pour un client, investisseur solo, a priori, à peu près.
Voilà, exactement.
Ouais.
Mais après, effectivement, rien n'empêche l'investisseur de le faire avec un proche ou la famille et du coup, effectivement, de monter une SCI de son côté.
D'accord,
ouais.
ok, très bien. Alors, revenons au locataire, mmh. avant de repartir sur le client investisseur. Le locataire, dans ce schéma super coloc, donc tu disais, grosso modo, la taille moyenne de... Alors, tu parlais donc d'appart plutôt que de maison,
mmh.
donc ça veut dire que vous êtes souvent en copro.
Oui, exactement, ouais.
Et donc, tu parlais de taille à peu près entre 4 et 6 chambres.
Exactement.
C'est ça.
Ouais.
Donc une centaine de mètres carrés.
Ouais,
un
c'est
peu
ça.
Plus,
on est en moyenne 120. Autour de 100 mètres carrés, ouais.
D'accord. Là-dedans, donc chacun va avoir sa chambre privative. Est-ce que les chambres sont équipées d'une salle de bain, d'une douche, ou est-ce que ça fait partie des communs?
Alors, en fait, effectivement, c'est un bon point et c'est effectivement pas toujours. Compris parce qu'en fait, il y a, comme je disais, il y a le co-living. Donc le co-living, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est des espaces plus généreux, qu'ils soient d'ailleurs privatifs ou partagés.
Mmh.
Et donc du coup, dans les co-living, effectivement, dans la majeure partie des cas, mais honnêtement, ça dépend parce que dans une maison donnée, c'est souvent des maisons familiales qu'on transforme en colocation. Il y a parfois des tailles différenciées.
Ouais,
et du
sûr.
Coup, il y en a qui ont leur petite salle de bain, leur petite kitchenette. Mmh. D'autres, c'est plus restreint. Donc ça, c'est dans les co-living. En revanche, dans les super colocs, parce que c'est un tic qui est inférieur, c'est aussi un loyer qui est largement inférieur pour le locataire. Et donc, en fait, le plus souvent, ils ont une chambre qui est privative avec une clé, donc ils ont vraiment leur parfaite intimité.
Ouais.
Elle est aménagée pour qu'ils puissent... qui puissent y vivre, mais effectivement, donc ils ont un petit bureau, une chaise, etc., tout est ameublé. En revanche, les salles de bain, elles sont partagées.
D'accord.
La cuisine est partagée et
oui.
le salon aussi.
Oui.
Donc tout ça, c'est effectivement partagé. Après, on a politiques en interne, enfin des critères qui font qu'en fait, il y a un nombre évidemment maximal de personnes pour
ratios,
par exemple, une salle de bain, voilà, des ratios.
Voilà,
donc, une salle de bain pour deux unités,
ouais,
des toilettes, etc., pour qu'effectivement, enfin, encore une fois, on a vraiment toujours en tête l'idée d'offrir une expérience optimale pour le locataire.
Ouais, un confort,
et donc voilà, et un certain confort. Donc ça, on pense toujours à ça. Par rapport aux extérieurs dont tu parlais, bah, c'est vrai que ça dépend des localisations. C'est vrai que typiquement, si on est à Marseille, on essaye d'avoir un balcon. Mais encore une fois, ça dépend du tic de l'investisseur.
D'accord.
Ça dépend aussi de la typologie du bien. Donc on adapte aussi notre offre et puis nos recherches en fonction de la localisation et puis du montant de l'investisseur qui veut investir.
Très bien. Alors, je vais avoir pas mal de questions
ouais.
sur l'investisseur, mais pour l'instant, on se les garde pour juste après.
Ouais.
Pour terminer sur le locataire, quel est le... Alors, toujours sur ce produit, hein, Supercoloc, quel est... Alors, tu vas peut-être me dire, remarque, ça dépend des villes, mais quel est à peu près le loyer moyen pour un locataire chez Colonize? Est-ce qu'il y a un...
Ouais, alors ça, effectivement, comme tu le dis, ça dépend des villes et puis aussi de la localisation. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vraiment donc il y a les équipes de sourcing qui, en fait, au moment d'envoyer l'opportunité à un investisseur, il y a un vrai travail qui est fait à la fois sur le business plan, mais aussi de benchmark pour comprendre, en fait, par rapport à cette localisation, à combien est le loyer, je dirais, médian, moyen, et en même temps aussi par rapport au standing proposé. Parce que nous, encore une fois, tout est meublé, etc. Mais l'idée, c'est d'être quand même dans le marché. Franchement, je peux pas te donner de... Enfin, je peux te donner une fourchette.
Ouais,
on est entre 500 et 700 euros, je dirais, en moyenne.
D'accord.
Mais après, si... à Courbevoie, extrêmement bien placé, on peut aller un petit peu plus haut aussi.
D'accord.
Mais vraiment, tu vois, là, on a fait des visites investisseurs la semaine dernière et on a fait des visites un peu mystères. Enfin, on n'avait pas du tout briefé les locataires. L'idée, c'était que l'investisseur rencontre des locataires sans qu'on demande quoi que ce soit. Et c'est vrai que les retours étaient hyper positifs. Alors franchement, c'était super et intéressant. Et en fait, il disait qu'effectivement, pour le prix proposé, l'idée, c'est pas de brader du tout les prix, mais on est, je dirais, vraiment au bon prix, parce qu'en fait, tous les retours locataires qu'on a eu ce jour-là, c'était de dire, bah, je mettrais pas forcément plus, moins, ça serait peut-être pas assez, mais en réalité, on est hyper bien. Nos amis, quand ils viennent nous voir, ils nous disent, ah, mais attends, c'est vraiment bien ce que tu as trouvé, etc. Donc ça, c'était, franchement, c'était marrant parce que c'était pas téléguidé. Et en réalité, bah, c'était un bon retour du coup des locataires. Et tu vois, là, c'était à Asnières, on était autour de 650 euros par mois, par
d'accord.
unité.
D'accord, ok. Ouais, ça donne... Oui, d'accord, ça me semble... Oui, ça semble assez cohérent.
Sachant que tout est fourni.
Et ça se montre très rapidement, j'imagine.
Il y a une
forte demande côté locataire.
Ouais, alors nous, du coup, effectivement, dès le sourcing, on vérifie la tension locative des localisations. Donc, on priorise des zones stratégiques tant en termes de pôle d'emploi ou de pôle étudiant.
Ouais.
Et puis, il y a l'équipe de sales qui est consultée. Du coup, dès cette étape-là, on a des sales en interne qui, en fait, effectivement, nous donnent les critères, les localisations et tout. Et puis aussi, comment eux, s'ils ont des retours, en fait, de terrain. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une vision 360 degrés. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, je pense, chez Colonize, c'est qu'en fait, comme on a tout intégré les expertises dans la chaîne, c'est que non seulement pour l'investisseur, bah, y a une fluidité et une visibilité organisationnelle et financière de A jusqu'à Z, de l'achat jusqu'à la gestion locative, mais en plus, nous, en interne, bah, ça a un intérêt, c'est qu'en fait, on discute aussi entre nous et que du coup, on adapte aussi en fonction de nos process et puis notre stratégie, quoi.
D'accord, ok. Très bien, je comprends. Et après, sur la partie copro, là-dessus, j'imagine qu'il n'y a pas de freins particuliers, il n'y a pas de, je sais pas, quelque chose que vous regardez dans le règlement de copro, quelque chose qui pourrait interdire,
ça. Parfois ça arrive que effectivement, comme tu le sais, dans les règlements de copro,
une clause bourgeoise,
on le vérifie. Et ça, il y a vraiment un audit qui est fait par les équipes de sourcing, qui en fait, il y a vraiment une personne, un dev manager qui est dédié pour l'investisseur. Et qui en fait vérifie, qui fait l'audit, le double audit, parce que normalement l'agent doit aussi vérifier les éléments du dossier, mais enfin on peut pas non plus se poser forcément toujours.
C'est ça.
Et du coup il y a un vrai audit qui est fait.
Donc,
et en plus,
le meuble se prête bien.
Ouais.
Qu'il y a pas de souci
là-dessus. Non, on vérifie tout et puis on a l'habitude. En plus on travaille main dans la main avec une étude notariale aussi qui revérifie aussi tous les éléments. Donc en fait franchement c'est hyper sécure, quoi.
C'est bordé là-dessus.
Ouais.
Ok, oui, parce que alors autant vos remarques. Sur la partie coloc, c'est assez rare qu'il y ait vraiment un gros blocage ou un veto dans les règlements de copro, ce qui arrive beaucoup plus souvent, c'est sur la partie courte durée, type Airbnb, choses comme
ça. Voilà.
Où là, alors là, il y a des blocages quasi systématiques. Et de toute façon, si la copro ne bloque pas, de toute façon, la mairie va le plus souvent bloquer. Donc là-dessus, clairement, c'est très, très, très compliqué. Par exemple, à Paris, c'est devenu impossible de faire du Airbnb. Mais sur la partie coloc, je vois pas de...
Ça peut être comme une coloc... Et franchement, c'est comme une coloc relativement classique.
Oui, c'est ça, exactement. Donc c'est assez rare que... Mais bon, après, ce qui peut être un petit peu plus gênant parfois, éventuellement, pour la vie courante de la copro, c'est si, par exemple, vous êtes sur un étage un peu élevé et qu'il n'y a pas d'ascenseur. Voilà. Et là, ça peut être un petit peu chiant, je pense, pour les autres habitants de l'immeuble, d'avoir chaque fois un gros va-et-vient dans l'escalier, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vrai que souvent, moi je vois, parce que j'ai aussi des clients qui investissent en coloc, généralement, ils aiment bien soit qu'il y ait un ascenseur, soit qu'il soit plutôt sur les niveaux un peu bas pour justement pas avoir trop de soucis potentiels avec les habitants, tu vois,
de la part. Bah nous, c'est vrai qu'on a, honnêtement, et c'est vraiment sincère, on n'a pas eu trop ces retours-là.
D'accord. Mais peut-être que vous faites gaffe à ça aussi. Hein.
Ouais, c'est ça.
Possible.
Non, mais parce que, effectivement... Ouais, enfin, je dois dire qu'en fait, on a, je dirais que, parce que moi, je participe en tant qu'investor manager, je participe aussi au côté sourcing et puis aussi à proposer les opportunités à des investisseurs. Et en réalité, honnêtement, j'ai toujours vu des ascenseurs dans toutes les.
Voilà, c'est ça. Parce que moi, typiquement, tu vois, parfois, tu vois sur des annonces un quatrième sur ascenseur, bon, ce qui est à peu près accessible, hein, surtout pour les jeunes actifs. Mais en soi, quand tu réfléchis, tu te dis, bon, attends, s'ils vont être 4 ou 5 toute la journée. Avec un gros va-et-vient dans l'escalier, ils reçoivent leurs copains, etc. 4-5 étages, monter, descendre, parfois un peu tard le soir, ou machin, ça peut être un petit peu contraignant pour ceux qui habitent au premier ou deuxième qui vont se les taper.
Ouais, je comprends.
Donc, mais l'ascenseur, bon voilà, il règle le problème.
Et par rapport à ton point, il y a aussi pas mal de règles de vie, et l'idée c'est que. On essaye au maximum aussi de pas que la coloc devienne y a vraiment des règles en fait. Les colocs, on parle
de
droit.
Ouais,
il y a une charte. D'accord. Et l'idée c'est que les colocs puissent pas non plus inviter trop de gens, etc. Parce que l'idée c'est effectivement déjà par rapport à la copro, puis aussi par rapport à l'état de l'appartement et puis à tous les niveaux pour aussi que le bien soit aussi entretenu. Donc on a un residence manager qui est dédié à chaque copro. Super coloc, ouais. Et du coup, effectivement, il vérifie aussi ça, que ce soit pour l'investisseur, pour la copro, et puis voilà. Et on a honnêtement pas eu de soucis jusqu'à maintenant.
Ouais. Alors c'est marrant parce que je discutais de ça avec justement un opérateur qui lui ne fait que de la coloc, pas du tout co-living, mais que de la coloc historiquement, et il me disait que ils avaient en fait analysé et ils s'étaient rendu compte que le meilleur schéma en termes d'occupation et de locataires pour eux, pour justement veiller à ce que l'appart soit bien entretenu et qu'il n'y ait pas trop de fêtes tout le temps, de choses comme ça. Il me disait que pour eux, en fait, ils s'étaient rendu compte que le meilleur schéma, c'était un mixte d'étudiants et jeunes actifs. Que des étudiants, c'est le bordel. Grosso modo, il me disait que c'est souvent compliqué. Dans la vie confortable de la copro, etc., ça marche souvent relativement moyennement si on est 4 ou 5 étudiants. Que des jeunes actifs, ça fonctionne bien. Et le mix des deux fonctionne très, très bien aussi.
Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que ça, c'est assez, effectivement, c'est positif, en fait, je suis d'accord. Mais nous, en fait, c'est vrai qu'on arrive à avoir franchement des colocations qui sont ouvertes jusqu'à maintenant, et d'ailleurs que ce soit en co-living, finalement c'est un peu pareil, hein. Ça se passe vraiment bien, et je pense que le système d'avoir un residence manager dédié qui soit assez présent, évidemment il va pas passer sa vie là-bas, mais il est présent quand même. Il y a aussi des systèmes dans les co-living de ménage, donc en fait on a des relais qui font qu'en fait ça permet aussi de pas avoir de débordement,
la gestion,
et on en a pas eu jusqu'à maintenant.
D'accord, ok. On passe du côté client-investisseur.
Ouais, vas-y. Allez.
Donc l'investisseur, lui, on se le disait, donc il, sur ce produit, en tout cas Supercoloc, il investit, bon, on va dire le plus souvent seul. Après, il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il partage le ticket avec quelqu'un. Est-ce que vous... alors, j'avais une première question qui était sur le schéma, le process, on va dire, justement, d'acquisition client. Est-ce que vous travaillez à la demande, c'est-à-dire un client investisseur potentiel vous contacte et vous dit voilà, moi j'aimerais bien investir, et donc vous allez lui proposer à lui une sorte de chasse dédiée pour lui trouver son truc, mm-hmm. ou est-ce que vous intervenez à l'inverse, c'est-à-dire qu'on vous propose des biens et les biens que vous avez, vous les proposez à une multitude de clients investisseurs potentiels?
Bah, y a les, en fait, il y a les deux. Et déjà, un point important, c'est aussi de comprendre que nous, en termes d'investisseurs, on peut travailler avec des investisseurs donc particuliers, mais aussi donc, à titre personnel, effectivement, comme tu me le disais tout à l'heure en off, mais quelqu'un qui a un petit peu d'argent de côté, qui ne sait pas quoi en faire et qui veut un investissement rentable. Mais ça peut être aussi des marchands de biens. D'accord. Ça peut être aussi des gestionnaires de patrimoine avec lesquels on travaille. Okay. Donc ça, c'est un point assez important à avoir en tête, donc me permet d'en parler. Et du coup, en fait, parce que nous, notre capacité, c'est effectivement qu'on peut monter en puissance et proposer beaucoup d'opportunités en très peu de temps. Alors nous, comment on fonctionne, pour répondre à ta question, on a des équipes de sourcing dédiées en permanence, ouais, qui sourcent des biens, okay, sachant que... Franchement, moi, je le vois puisque je suis en lien en permanence avec les investisseurs. Franchement, dans 80% des cas, on est sur des critères assez semblables en termes de rentabilité, de type d'actifs ciblés.
Du budget aussi.
Alors, les budgets, effectivement, je dirais que ce qui pourrait le plus changer, ça serait un budget. Et ça serait la localisation. On voit que les investisseurs, ils ont parfois une attache particulière sur une région plutôt qu'une autre.
La région natale.
Ou ils ont un point d'une famille, enfin, quelqu'un de leur famille ou autre chose, ou c'est pas loin de Paris, par exemple. Donc je dirais que les points qui changent, effectivement, ça peut être le montant de l'investissement et les localisations, mais autrement les critères sont quand même assez similaires. Et puis souvent, en fait, c'est ça qui est assez agréable, c'est qu'ils s'en remettent aussi à notre expertise en se disant bah finalement moi j'y connais pas grand chose. D'ailleurs, c'est tout l'intérêt de passer par un opérateur, c'est de une fois qu'on a confiance, évidemment, mais c'est aussi de s'en remettre à leur connaissance du marché et financière. Et du coup, nous, l'idée, c'est par contre, et ça on y tient vraiment, c'est de vraiment proposer des choses qui correspondent à leurs critères. C'est pas, on n'en voit pas, parce que ça peut être le cas parfois.
Oui, c'est ça.
N'importe
c'est ça,
quoi.
Est-ce que tu... je sais pas, j'ai n'importe quoi, mais est-ce que vous avez comme ça une liste de 200 personnes? Et lorsque vous trouvez quelque chose qui peut être intéressant, hop, vous le balancez au 200.
Non, alors nous, c'est assez personnalisé. Voilà. Non, nous, honnêtement, c'est assez personnalisé. Enfin, c'est vraiment pas mal du sur-mesure. En tout cas, okay, on a vraiment à cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place et que je trouve hyper à notre honneur. C'est vraiment chaque investisseur, quel que soit son montant d'investissement, on le prend en tant que investisseur individuel. Et surtout, on prend en compte sa demande. Vraiment à cœur, quoi. Et du coup, on lui envoie des opportunités qui correspondent vraiment à ce qu'il recherche.
D'accord. Okay.
Donc ça, voilà. Mais nous, de manière proactive, on ne peut pas non plus attendre un investisseur. Évidemment, on a un pool d'investisseurs à qui on source en permanence, en fait, des biens.
Oui.
Mais par contre, on ne propose pas n'importe quoi, n'importe comment.
D'accord.
Okay. Donc ça, c'est vraiment, et c'est sincère, ce qu'on fait, notre manière de travailler. C'est hyper important de l'avoir en tête. Et du coup, effectivement, parce que nous, en fait, on travaille avec beaucoup d'investisseurs à des tailles différentes. Hein. On travaille avec des très gros investisseurs institutionnels, des foncières, des assureurs, etc. Et à la fois avec des investisseurs particuliers ou des marchands de biens. Voilà. Mais on s'adapte vraiment aux besoins de l'investisseur, à son budget, et pour proposer en fait la solution la plus opportune et puis la plus intéressante pour lui.
Ok, d'accord. Donc effectivement, celui qui a un budget à 200 000, il ne va pas recevoir des choses où le ticket est à 700 000.
Non, pas du tout, vraiment. Ouais.
D'accord. Ciblé quand même assez bien, parce que ce n'est pas toujours le cas. Enfin, je ne citerai personne, mais j'ai des confrères qui, effectivement,
exactement,
ont des listes de 200, 300, et hop, on balance, et le client reçoit 10 ou 20 mails ou WhatsApp dans la journée, avec des trucs qui ne correspondent parfois absolument pas aux critères. Et donc, moi, quelques clients qui me disent voilà, je suis aussi inscrit chez un tel ou un tel, et bon, c'est un peu spécial parce que je reçois des trucs à Bordeaux, à Tourcoing ou à Ramatuelle, alors que moi j'avais dit que je voulais investir en région parisienne et j'ai un budget de 200 000 et je reçois tiens, regardez, un immeuble à Ramatuelle.
C'est vrai que ça arrive beaucoup, et nous, l'idée, enfin vraiment, et c'est ce qu'on a mis en place, c'est aussi d'avoir un interlocuteur dédié. C'est justement aussi dans cette dynamique de personnalisation aussi. Et on sait que 400 000 euros pour quelqu'un, c'est énorme. Ça reste une somme énorme,
et
c'est un des plus gros investissements potentiels de leur vie, avec potentiellement leur résidence principale ou pas d'ailleurs. Et du coup, ça, on l'a vraiment en tête. Et le fait d'avoir aussi d'autres gammes de produits. Du coup, on capitalise sur les expertises et puis les expériences qu'on a sur ces gammes de produits. Sans, ouais. Mais ça n'entache en aucun cas. En fait, c'est vraiment juste s'apporter des choses entre les différentes gammes de produits, quoi.
D'accord. Ok. Mm. Oui, et puis même, c'est intéressant que vous ayez plusieurs types de produits. Mm. Parce que je me dis que, bon, voilà, la vie évolue, la carrière d'un client évolue aussi. Mm. Et vous pourriez peut-être avoir des passerelles dans le temps où un client va investir sur, je sais pas, de la super coloc. Mm. Et puis, peut-être que 2, 3 ans ou X années plus tard, il va dire, tiens, je prendrais bien du co-living pour essayer. Et peut-être que demain, je prendrais... un petit bout dans une plateforme de crowdfunding où, sur lequel vous allez proposer à votre club d'investisseurs tel type de bien, etc. Donc effectivement, c'est intéressant d'avoir plusieurs schémas et plusieurs produits à proposer parce que je pense que peut-être que le client évolue et aura la propriété, lui, de plusieurs des types de produits.
Exactement. Et un point hyper important, enfin, du coup, ça me fait penser, effectivement, les investisseurs, l'idée, nous, c'est de les fidéliser. Et vraiment, ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs... On peut les fidéliser différemment et ça marche. C'est soit, effectivement, ils font plusieurs opérations avec nous. Mmh. Et c'est vraiment dans notre intérêt. C'est pour ça qu'on veut aussi très bien travailler à toutes les chaînes, que ce soit au moment du sourcing, des travaux, de l'ameublement ou de la gestion locative. Mais aussi, par exemple, il y a des propriétaires qui ont plusieurs biens, qui en fait, justement, arrivés à un certain niveau, ils en ont 3-4, et puis en fait, ils n'arrivent plus à le faire seuls parce qu'ils ont un métier à côté. Donc, ouais. Ils ont recours à nous pour... ils font parfois un test, par exemple, sur un bien. Puis en fait, après, effectivement, on gère leurs différents biens. Parce qu'en fait...
Parce qu'on les transformer au fur et à mesure.
C'est... Ouais.
Ok, je comprends.
Et puis, il y a aussi le fait que nous, on peut intervenir aux différents moments de la chaîne. On est un opérateur et un gestionnaire. Donc, du coup, on peut effectivement être au moment du sourcing jusqu'à la gestion locative. Mmh. Mais aussi, on peut opérer au moment uniquement des travaux ou au moment de l'ameublement. Et ensuite, on fait la gestion locative par la suite.
D'accord.
Du coup, ça permet d'être assez agile dans notre offre.
D'accord. Donc, effectivement, tu prends l'exemple d'un client investisseur qui a déjà un peu de patrimoine, qui a quelques biens qu'il avait acheté auparavant avant de vous connaître, par exemple, ou avant de passer par vous. Il fait un test d'investisseur sur un produit type hypercoloc. Et là, il se dit, tiens, les trois autres apparts que j'ai, ce serait intéressant que je les transforme. Et donc, effectivement, vous n'êtes pas au sourcing dédié, mais vous allez effectuer les travaux, l'ameublement, puis la gestion de ce bien.
Exactement.
Qui va transformer avec vous,
Exactement. Alors nous, on fait aussi une expertise des biens parce que effectivement, faut que ça corrobore nos critères architecturaux et design. Mais c'est vrai, effectivement, on peut du coup opérer au moment des travaux ou alors juste l'ameublement. Et puis si ça match du coup nos critères, effectivement, on peut faire la gestion locative aussi uniquement.
Ouais, d'accord, intéressant. Mmh. Ouais. Donc vous, effectivement, le client. Met le doigt dans l'engrenage colonique. Ouais. Ça y est, hop, on va transformer le patrimoine et on va bosser ensemble. D'accord, ouais, intéressant.
Et puis, vraiment, là, on est en train d'une pleine dynamique au service de nos investisseurs. Et puis là, on a mis en place un concept de communauté et puis de parrainage. Et l'idée, en fait, c'est... là, on vient d'emménager dans l'ancien hôtel particulier d'Émile Zola dans le 9e, rue de Bruxelles. Et puis, en fait, c'est comme une maison qu'on a créée. Et effectivement, on va faire des petits events avec notre communauté d'investisseurs. On a créé aussi un programme de parrainage où un investisseur qui investit avec nous, s'il parle de nous à un de ses amis ou des personnes de sa famille, il aura des rétributions, un dîner étoilé ou des choses comme ça.
Ah, sympa.
Ouais. Et puis autrement, si l'investisseur investit plusieurs fois avec nous, il y a aussi un intérêt financier pour lui. Donc, à investir plusieurs fois avec nous.
À fidéliser.
Ouais. On a vraiment à cœur, comme je le disais, vraiment, l'idée, c'est de faire notre travail au mieux, mais aussi on sait que par rapport à notre cœur de métier et puis comment on se positionne, on sait que les investisseurs sont clés, quoi. Donc, du coup, on veut aussi les fidéliser et puis les servir au mieux.
D'accord, ok. Et vous avez comme ça pas mal de clients récurrents qui reviennent, qui reproduisent le schéma, qui investissent sur plusieurs biens. Vous avez comme ça des clients.
Vrai, on a des investisseurs. J'ai l'impression, je ne sais pas si toi tu le vois dans ton métier, mais c'est vrai que des investisseurs, une fois qu'en fait on se rend compte que quand on fait un investissement, ils s'autofinancent, qu'en fait on bénéficie des avantages fiscaux et qu'en réalité, nous ce qu'on propose, c'est vraiment de l'investissement locatif clé en main où la personne n'a plus rien à faire. C'est vrai qu'une fois qu'ils ont autofinancé leur bien, qu'ils se rendent compte que ça va être des revenus complémentaires à l'issue du financement du bien et qu'en fait ils n'ont pas un gros effort mensuel,
ils aiment bien reproduire l'expérience.
Ouais. Et puis
si
la
ça
banque
s'est bien passé,
et la banque qui voit que ça s'est bien passé sur une opération, elle fait confiance à cet investisseur et puis après c'est un cercle vertueux.
Il y a un track record qui se met en place et le et le client peut justifier de la bonne tenue de ses comptes et de son projet auprès de la banque qui l'a financé la première fois, etc. Effectivement, il y a tout un chaînon supplémentaire pour reproduire l'expérience une seconde fois ou une troisième fois. Ok, je comprends. En termes de rendement, justement, tu disais c'est relativement semblable ce qu'attendent nos clients. Ce qui peut changer un petit peu, ça va être le budget, éventuellement la localisation. En termes de rendement, on est sur quelle typologie, quel ordre de grandeur? Alors après, tu vas me dire aussi, j'imagine, comme pour les loyers, ça peut dépendre entre Courbevoie et Marseille. Mais parlons, par exemple, Île-de-France, qu'est-ce qu'attendent vos clients sur une super coloc en termes de retour sur investissement, par exemple?
Alors là, je dirais qu'effectivement, ça dépend, comme tu l'as très justement dit, de la localisation, mais aussi de la stratégie de l'investisseur. En fait, les investisseurs, et donc si on est avec, parce que comme je te le disais, dans les investisseurs, il y a plusieurs typologies d'investisseurs, et du coup, plusieurs stratégies d'investissement aussi. S'ils se positionnent sur tes biens core ou value add, évidemment, la stratégie de rendement sera différenciée.
Vous avez les deux ?
Comment ?
Vous avez justement des gens qui cherchent du core, comme tu dis, donc. Très bien placé, hyper centre.
Exactement, mais du coup, la rentabilité moins importante.
Ouais, ouais.
On explique, parce qu'il y a des investisseurs qui n'ont pas forcément conscience de ça, et du coup, il y a tout un travail aussi de pédagogie sur le sujet, et donc des stratégies assez différenciées. Mais je dirais qu'en tout cas, quelqu'un qui se focus uniquement sur la rentabilité et qui n'y connaît pas grand-chose, et en tout cas est ouvert à toute typologie d'immeubles et de localisation, on peut être sur des rendements entre net, hein, parce qu'alors nous, il y a quelque chose d'important.
Net de tout.
On prend vraiment tout en compte. Pas forcément le cas de tout le monde.
Après travaux, après fils, après tout.
Ouais, exactement. Et donc, du coup, on est entre 4,5% et on peut aller jusqu'à 5,2, 5,3%. Honnêtement, c'est hyper intéressant et c'est pas du tout, c'est vrai que ça paraît un peu péremptoire, mais c'est pas le cas. Hier, je discutais avec un courtier qui travaille avec nous, on travaille ensemble dans le sens où si lui entend parler de personnes qui cherchent à faire un investissement locatif, il disait qu'il avait eu l'occasion de voir différents BP d'autres potentiels opérateurs, et c'est vrai qu'il disait honnêtement, les rentabilités que vous proposez sur les typologies d'actifs sont vraiment intéressantes, quoi. Et on est hyper vraiment transparent et honnête avec nos investisseurs, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'idée c'est vraiment de les fidéliser et puis d'avoir effectivement cette dimension aussi d'accompagnement d'accompagnement qui est hyper importante, quoi.
D'accord.
Sur un investissement qui reste un gros investissement.
C'est bien, effectivement. Enfin, 4,5%, 5% net, acte en main, etc. Après tout, c'est très bien. Et on est effectivement tout proche de l'autofinancement, voire on autofinance, je crois, à partir de 4,5%, 5% sur 20 ans. Donc, c'est souvent ce que le client recherche. Alors après, comme tu le dis, si on est plus sur des biens core, celui qui te demandera d'être en première couronne ouest parisienne, il faut qu'ils s'attendent effectivement à avoir souvent un petit effort d'épargne complémentaire, puisqu'on arrivera difficilement à faire du 5% à Boulogne ou
dans le Lospagne.
Ou à Levallois, ouais, c'est ça. Mais sinon, sur le principe, oui, moi je le vois aussi de mon côté avec les clients qui me sollicitent. On est, le plus souvent, le client, soit il veut du core effectivement et il accepte de faire un effort d'épargne parce qu'il veut de l'hyper patrimonial. Sur lequel il va avoir une confiance à long terme sur la valeur du bien, soit il va être le plus souvent sur une volonté d'autofinancer pour ne pas avoir d'effort d'épargne, quitte à faire une petite croix, on va dire, et à vouloir bien se positionner sur quelque chose d'un petit peu moins premium, quitte à être en couronne toujours proche des transports, etc.
L'idée effectivement de la deuxième typologie dont tu parlais, c'est aussi de miser aussi sur des localisations qui vont monter. Donc il y a une dimension de risque qui est un petit peu plus élevée, mais à la fois aussi intéressante.
Oui, bien sûr.
En termes de prise de valeur du bien.
Potentiel parfois intéressant, notamment sur le Grand Paris, etc. Avec des projets qui naissent.
Ou des régions qui ont pris 25% en 5 ans, type Marseille.
Oui. Oui. Ouais, effectivement, il y a des coins où, là, avec le Covid, moi, je voyais avec des clients, on regardait Rouen, Angers, enfin, ça a pris Poitiers, ça a pris 20-30% en l'espace de 2 ans, quoi.
C'est dingue, ouais.
C'est fou. Donc, il y a comme ça, effectivement, des zones qui sont devenues archi-dynamiques du fait d'un élément un peu exogène, quoi. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour cette partie investissement, super coloc. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter de ton côté sur le produit, sur la typologie, sur le client investisseur?
Non, honnêtement, je pense qu'on a fait pas mal le tour. Après, c'est vrai qu'en tout cas, en termes de conseils, ce que je préconise, en tout cas pour des investisseurs particuliers qui souhaitent se lancer, c'est déjà de savoir s'ils veulent se lancer seuls ou à plusieurs.
Ouais.
Et puis, quel statut juridique ils veulent viser. Donc, si c'est, par exemple, LMNP ou SCI à l'IS, qu'ils connaissent leur capacité d'emprunt.
Oui.
Parce que ça reste le nerf de l'IS.
L'étape numéro 1 aujourd'hui, à fortiori aujourd'hui, ouais.
Et puis après, voilà, et comme je disais, c'est effectivement, il ne faut pas sous-estimer aussi le temps que ça prend et les expertises requises pour faire un investissement dont on vient de parler.
Ouais.
Ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément confronté jusqu'à ce qu'on le fasse. Et c'est vrai que trouver la bonne localisation, la bonne configuration et puis optimiser le business plan, ce n'est pas forcément évident. Donc, c'est vrai que c'est toutes ces choses-là, je dirais qu'en termes de conseils auxquels il faut penser avant, enfin, en tout cas au moment de se lancer.
Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est là que le côté clé en main, comme vous faites ou comme d'autres font, ou moi aussi, c'est effectivement, c'est une énorme valeur ajoutée pour le client qui aimerait agir, mais parfois se rend compte qu'il est face à un mur, tellement il y a des choses à faire, et c'est tellement compliqué quand on bosse. Et
ouais, c'est
la plupart des gens, quand même, pour investir, doivent bosser, sinon c'est compliqué de se faire financer. Mais effectivement, ça, c'est presque un parcours du combattant, en s'y prenant tout seul et en n'ayant jamais en s'étant jamais frotté au problème de 1. Trouver le financement, 2. Trouver le bien, 3. S'occuper des travaux, de l'ameublement, etc. Enfin, si chaque fois on doit prendre 2 jours de RTT,
c'est
compliqué. Donc effectivement, c'est là que le côté clé en main a une énorme valeur.
Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que...
Non, bah, sinon on ne fait jamais rien. Ouais. Mais effectivement, en tout cas, le fait d'être accompagné à chaque étape et de finir avec un produit qualitatif apporté par un expert a quand même une valeur importante. Ouais. En tout cas, c'est mon avis,
c'est
Roy Invest et, voilà, et on se rejoint bien là-dessus.
Voilà.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Astrid.
Merci à toi, Gary.
Pour cet entretien. Ravi d'avoir fait connaissance avec toi et d'avoir mieux compris le métier de colonise. Est-ce que comme ça en conclusion, j'aime bien demander on en a pas parlé avant, mais n'aie pas peur si tu n'as pas d'idée, c'est pas grave. Mais est-ce que tu aurais pour changer complètement de sujet une côté culturel, une lecture, un podcast, un film que tu aurais vu récemment, que tu aurais trouvé sympa à nous recommander. Nos clients et nos auditeurs plutôt sont souvent comme ça en voiture ou écoutent ça à titre de détente et aiment bien savoir ce que les uns les autres ont vu récemment.
Alors moi, il y a plusieurs choses effectivement. C'est vrai que juste déjà, je pense que je me suis, je pense que moi, il y a un podcast, mais c'est vrai que ça, comme tu me disais, ça a rien à voir avec l'immobilier, mais que j'ai découvert il y a pas longtemps. C'est le podcast qui s'appelle Femmes puissantes de Léa Salamé que j'ai beaucoup aimé.
Ok.
Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que on est fan, enfin on aime ou on n'aime pas Léa Salamé, mais c'est vraiment pas le sujet. C'est qu'elle elle interviewe en fait des femmes qui sont d'univers très différents. Donc ça peut être une éditrice, une réalisatrice, une femme politique, une gendarme et quelqu'un qui est une historienne. Et en fait, du coup, je trouve que c'est hyper enrichissant de comprendre les points de vue de ces personnes-là. Et honnêtement, les questions, la manière dont elle aborde cette thématique est hyper intéressante et c'est hyper intéressant et pas non plus, un peu parfois un peu vindicatif. C'est juste intéressant de comprendre les problématiques et puis les histoires de ces femmes qui sont assez illustres dans leur domaine.
D'accord.
Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce podcast. Alors voilà, effectivement.
Ah, on a beaucoup d'auditrices. Je crois je me demande même si on n'a pas une majorité de femmes auditrices. Ouais,
Mais après, les hommes peuvent écouter aussi. Hein.
Oui, évidemment. Moi, je le fais. Et je crois que je n'ai pas écouté. D'ailleurs, il y avait une émission un peu sur le même thème. je sais pas s'il existe toujours, d'Elisabeth Lemoine.
Ah oui, en plus j'aime beaucoup elle. J'avais pas entendu.
Elle interviewait que des femmes. J'avais entendu ça il y a peut-être 2 ans, donc peut-être que ça n'existe plus, je ne sais pas. Mais c'était assez intéressant, ouais. C'était un peu le même. C'était que des parcours totalement différents, des univers différents. Il y avait des célébrités et puis des illustres anonymes. Donc c'était assez intéressant. Ok.
Bon, bah, écoute, je vais aller regarder parce que j'aime beaucoup cette femme.
Je te promets rien. Hein. Encore une fois, ça date un petit peu. De première. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours intéressant.
Bah, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu.
Et bah, merci à toi. Et puis, donc on mettra les liens des différents sites et réseaux de Colonies pour que nos clients puissent aller regarder ce que vous proposez et vous contacter si besoin est. Et beaucoup ont besoin.
Bon, bah super, avec plaisir, n'hésitez pas.
Super, merci beaucoup.
Merci.
Très bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
À bientôt. Voilà, j'espère que cet échange vous a intéressé, sans doute si vous êtes encore là. Je vous invite donc à commenter, noter avec un 5 sur 5, partager à vos amis ou vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site easyinvest.fr, nos réseaux sociaux ou réserver un créneau pour discuter de votre projet. Vous trouverez le lien sur notre site ou nos pages Facebook ou Instagram. Restez toujours positif et n'oubliez pas, ceux qui pensent que c'est impossible sont priés de ne pas déranger ceux qui essayent. Ciao !